La geek de service.
Aujourd'hui, je vous parle des outils d'intelligence artificielle que j'ai intégrés dans mon quotidien. J'en teste régulièrement et je veux débuter en vous disant qu'est-ce qui fait que j'intègre un outil versus je vous en parle même pas parce que j'ai ouvert l'outil et je l'ai rejeté, alors que d'autres vont peut-être l'intégrer dans leur quotidien. Personnellement, je regarde en premier si c'est quelque chose qui fonctionne autant en anglais qu'en français si possible. Je navigue dans les deux langues régulièrement, mais quand un outil est disponible seulement en anglais, je l'explore quand même parce que des fois, je me dis éventuellement, il va être disponible en français, mais c'est sûr que je peux l'intégrer beaucoup moins quotidiennement que s'il est disponible en français. Je regarde aussi, est-ce que c'est un logiciel, est-ce que c'est un outil en ligne. Je suis très réticente à installer des logiciels sur mon ordi. J'aime beaucoup mieux des outils qui sont en ligne. Par contre, s'ils sont en ligne, ben je veux qu'ils tirent pas trop de jus dans mon navigateur. Donc, je minimise beaucoup le nombre d'extensions que je vais ajouter. Donc, j'aime bien quand c'est une plateforme en ligne qui me demande aucune installation. Ensuite, ben, je vais regarder ce qu'on me demande comme information puis comme données personnelles. Je dois vous avouer que comme tout le monde, je prends le temps de me questionner, mais des fois, c'est pas toujours évident. J'essaie de comprendre pourquoi, par exemple, on va me demander accès à ma liste de contacts. Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'outil qui va demander un accès? Même chose pour la caméra, l'appareil photo. Des fois, quand c'est trop gourmand en demande de données, je referme tout simplement le tout et je ne me crée pas de compte. Par contre, des fois, ben, c'est très clair qu'il y a une raison pourquoi on me demande accès à ma caméra parce que c'est un outil qui va me demander d'activer ma caméra et d'utiliser le tout. Donc, si j'ai des doutes, je vais aussi parfois aller faire, parce que parfois je fais juste tout fermer et c'est tout, mais si vraiment l'outil m'intrigue, les données qu'il demande ont l'air raisonnables dans l'utilisation, je vais aussi aller faire une petite recherche inversée sur le web de savoir à qui appartient le nom de domaine, donc qui est derrière le nom de domaine. Des fois, ça va me donner un nom de compagnie, je vais aller lire un peu sur la compagnie, mais je vous avoue que malgré tout ça, probablement que parfois je me fais prendre dans quelque chose qui me demande beaucoup de données et que je vais apprendre à mes dépens dans quelques années que, oups, je suis allée tout mettre ça là-dessus. Mais je prends quand même le temps de me questionner. Je vous donne un exemple. Récemment, je tombe sur un outil qui est de l'édition d'audio avec l'intelligence artificielle qui permet de prendre une piste audio et d'obtenir automatiquement la retranscription. Bon, jusque-là, rien de révolutionnaire. Ce qu'il y avait de bien dans l'outil en tant que tel, c'est que je pouvais enregistrer ma propre voix, donc lire une panoplie de phrases. Et lorsque j'avais terminé, j'allais pouvoir, en mode édition, pouvoir cliquer sur un mot que j'ai mal prononcé. Par exemple, je sais que je dis un épisode à peu près aux 5 secondes, alors que c'est un épisode. Ben, j'aurais pu aller corriger ça et corriger le 1 pour le une pour un 1 sans avoir à réenregistrer toute la phrase. Donc, l'outil, selon la publicité que j'ai vue, me permettait de double-cliquer sur le mot en question et en utilisant ma propre voix que j'ai fournie à l'outil, allait remplacer ce mot-là sans avoir à tout réenregistrer. Je trouvais l'idée absolument géniale. Par contre, quand j'ai commencé à faire des vérifications, je ne trouvais pas beaucoup d'informations sur la compagnie en question. C'était un logiciel que je devais installer sur mon ordinateur. En plus, mais là, je leur donnais accès à ma voix, mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec ma voix? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait éventuellement être utilisé pour faire de la fraude? Peut-être pas par la compagnie elle-même, mais est-ce qu'ils ont des mesures en place pour protéger mes données vocales qui allaient peut-être être volées et utilisées à mauvais escient? J'ai donc décidé d'arrêter cela et je n'ai pas exploré l'outil davantage. Je vais continuer d'être à l'écoute. Je suis contente de savoir qu'un outil comme ça va peut-être être disponible. En même temps, j'étais un peu déchirée sur le côté éthique, le droit à ma voix. J'ai lu un article récemment qui parlait d'acteurs qui prêtent leur voix à des personnages animés, par exemple, et qui se faisaient demander de signer dans leur contrat comme quoi on allait pouvoir utiliser des outils comme ça pour pouvoir réenregistrer ou corriger dans le processus d'édition sans avoir à les rappeler, donc sans avoir à les payer pour revenir enregistrer. Certains disaient « oui, pas de problème, moi j'ai signé », en autant que ça ne veut pas dire qu'on va me remplacer complètement pour la voix du personnage pour le prochain film. D'autres disaient « moi je signe pas ça, ça m'enlève mon gagne-pain, ma voix m'appartient, je ne veux pas leur donner ma voix ». Donc, c'est tous des débats éthiques que, bien sûr, je continue de m'intéresser. Donc, ça explique pourquoi des fois, je laisse tomber certains outils. Je ne vous en parle même pas parce que je vous parle toujours d'outils que j'ai vraiment testés et utilisés et qui fonctionnent bien pour moi. Ça, c'est l'autre aspect que je regarde quand je fais des choix. Est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce qu'il n'y a pas trop de clics? Moi, quelque chose qui me demande 18 clics pour me rendre à l'étape, ils m'ont déjà perdu d'avance. Il faut que le design UX, l'expérience utilisateur, soit vraiment le plus simple possible. Je veux toujours quelque chose que je peux montrer à quelqu'un puis qui me dit, c'est tout? Ça se fait un quelques clics comme ça? Effectivement, si ce n'est pas ça, l'outil, moi, prends le bord. Et il faut bien sûr que ça améliore quelque chose que je fais ou que ça m'apporte une façon plus optimale de faire les choses. Si j'ai déjà un outil qui fait sensiblement la même chose, même si l'autre est plus populaire dans le moment, ben je garde mon outil de base. Il faut vraiment que ce soit une plus-value que d'utiliser l'outil. Je vous présente aussi souvent des outils qui ont une version gratuite suffisante pour leur utilisation, mais je prends toujours la peine aussi d'aller regarder dans la section « pricing » de l'outil ou les prix ou les tarifs pour pouvoir me dire, ben là, si je l'aime vraiment, est-ce que quand je vais tomber dans sa version où je vais avoir besoin des autres fonctionnalités ou par exemple l'outil me permet un enregistrement de 30 minutes, ben, est-ce que j'ai une façon, est-ce que 30 minutes c'est suffisant par exemple pour moi ou est-ce que je vais rapidement tomber dans un 60 minutes d'enregistrement et là ça va me coûter combien? C'est le prix vraiment pas de bon sens et je ne paierai jamais pour ça. J'expérimente même pas l'outil dès le départ, je ne veux pas me l'approprier puis l'aimer et ne pas être capable d'aller plus loin. Donc, commençons avec un premier outil, celui dont tout le monde a parlé pendant les derniers mois, le fameux ChatGPT. On dirait que j'ai un blocage de dire ChatGPT parce que je trouve horrible le nom en français. Donc, appelez-le comme vous voulez, GPT ou GPT. Je l'utilise vraiment au quotidien. Je dois avouer que s'il disparaissait demain matin et qu'il y avait juste une version payante, je serais en questionnement. Mais pour le moment, la version gratuite me satisfait. Donc, ce que j'ai expérimenté jusqu'à présent avec l'outil, premièrement, je lui ai fait refaire mon profil LinkedIn. J'ai vu ça passer sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui disait, j'ai copié-collé mon CV et je lui ai dit, rédige-moi la section à propos de LinkedIn en prenant mon CV. Bien sûr, il a fait des choix éditoriaux que j'aurais pas fait nécessairement. Donc voilà, une petite erreur que j'aurais bien aimé double-cliquer et arranger au montage. Donc, il a refait mon profil. Il a fallu que je dise, retire tel élément, rajoute telle chose, mets plus d'emphase sur X, Y, Z. Mais après deux, trois petits ajustements, j'ai pu copier-coller le tout et je lui ai demandé de m'en faire une version en anglais aussi. Donc, j'ai maintenant un profil LinkedIn créé avec l'intelligence artificielle qui reflète beaucoup mieux que ce que moi j'arrive à écrire. On dirait que de se vendre soi-même des fois, c'est pas évident. Là, c'est pas moi qui me suis vendue, c'est ChatGPT. Ensuite, je lui demande régulièrement de l'aide avec mes publications sur les réseaux sociaux. Donc, ce que je fais, c'est que je vais lui donner une série de mots-clés ou des points-clés à ajouter. Je vais lui dire, rédige-moi une publication pour les réseaux sociaux qui présente les points suivants. Souvent, je lui redemande, donne-moi-en une autre version, donne-moi une autre version. Et là, à partir des deux, trois versions qu'il m'a données, je vais souvent prendre un paragraphe de ça, un paragraphe de l'autre, utiliser tel adjectif versus un autre. Et une chose que j'aime beaucoup, c'est que je peux, quand mon texte est final et qui fonctionne, par exemple, pour LinkedIn, Facebook et autres, je peux lui dire, est-ce que tu peux m'en faire une version courte de 140 caractères pour Twitter? Et il va me raccourcir le tout. Il aime d'ailleurs m'ajouter des emojis. Il ne choisit pas toujours les bons. La fusée semble être un de ses préférés que je ne comprends pas, mais je peux très bien changer après ça. Je l'ai aussi utilisé pour des titres et des descriptions de formation. Des fois, j'ai une idée de formation que je veux offrir dans le cadre de mon travail et trouver le bon titre et trouver la bonne description est difficile. Je refais le même procédé. Je lui donne une série de points et de mots-clés et je lui demande de me générer une description et des titres. Souvent, je vais lui en demander, donne-moi une dizaine de titres possibles. Avec les descriptions, je vais souvent lui dire, donne-moi une version plus courte ou mets plus d'emphase sur ceci. Donc, c'est rarement, je lui demande une chose, c'est fait et je peux partir avec, mais de lui demander de retravailler pour ensuite le retravailler moi-même est toujours gagnant. Ensuite, parfois, je l'utilise pour de la traduction. Vraiment, je lui mets une traduction, un texte en tant que tel, et je lui demande une traduction. Il faut le retravailler par la suite. Par exemple, tous les traducteurs que j'utilise vont dire étudiant plutôt que élève, alors que nous, on utilise plutôt élève au secteur jeune. Donc, il y a souvent des petits changements, mais je sauve un temps fou. Puisque je parle les deux langues, je suis capable de voir les nuances, je suis capable de venir ajuster le tout. Si je ne parlais pas la langue, ce serait difficile de dire je vais me fier à 100% là-dessus. Mais connaissant les deux langues, il me sauve un temps fou d'avoir à réfléchir à l'équivalence. Surtout que mon cerveau, quand il essaie de faire des équivalences, on dirait que là, il y a un blocage. Donc, je pars de la première version et je l'ajuste pour quelque chose. Je mets mon cerveau en anglais pour réviser le texte en anglais et je peux ajuster le tout. Il ne faut jamais hésiter de lui demander de retravailler. C'est la beauté de la chose, là. Premièrement, il faut lui poser une question claire au départ, mais on peut lui demander de reformuler, de nous donner une deuxième version, de rendre le texte plus court. On peut lui dire le nombre de mots. Assure-toi que ça ne dépasse pas tant de mots. Souvent, je vais lui demander de changer le temps de verbe et dire réécris le texte, mais au présent, pas au futur. Je vais lui demander, par exemple, de l'écrire à la troisième personne ou à la première personne. Donc, il ne faut pas hésiter, un coup qu'on a notre première version, de lui demander de retravailler le tout. Je l'ai aussi utilisé lors de l'écriture d'articles. Par exemple, sur le site de l'École branchée, vous allez retrouver un article récent sur le balado. Je vous décris ma séquence d'écriture. Mais premièrement, j'ai fait une entrevue en visioconférence avec la personne qui a travaillé sur le projet, qui m'a parlé du projet en tant que tel. Donc, j'ai pris des notes, j'ai questionné. Tout ça s'est fait sans intelligence artificielle, avec mon intelligence à moi tout seul. J'ai pris ça sous forme de courtes phrases, de mots-clés, d'un paquet d'informations. J'ai pris le tout, je l'ai mis dans ChatGPT et je lui ai dit, à partir de mes notes, rédige-moi un article de tant de mots sur le sujet suivant. En relisant, ben, j'ai remarqué qu'il avait fait des choix sélectifs, par exemple. Il y a des infos qu'il avait enlevées. Donc, je lui ai dit, ajoute un paragraphe qui dit ça, enlève le deuxième paragraphe, par exemple. Ensuite, j'ai dû ajouter des infos et venir bonifier parce qu'il y avait certaines choses que, en relisant, je me disais, moi, on devrait mettre l'emphase là-dessus. Ah, j'ai oublié de mettre le nom de telle ou telle personne. On va ajouter le tout. Et ensuite, je l'ai passé par un correcteur orthographique qui m'a aussi, il n'y avait pas une tonne de fautes, là, on s'entend, mais d'utiliser les fonctions du correcteur qui me permettaient de reformuler des phrases. Je vous parle de mon correcteur dans un prochain épisode, mais me permettait aussi de double-cliquer des mots pour aller chercher des synonymes, des phrases qui étaient proches de tout ça, puis de rejouer finalement avec la langue. Ensuite, j'ai envoyé le tout à mon éditrice qui l'a revue, m'a posé des questions, m'a demandé de venir préciser certaines choses, a demandé des ajouts, rejouer avec certaines tournures de phrases. Et ensuite, on a publié le tout, tout en indiquant dans le bas de l'article que ChatGPT avait fait partie du processus de rédaction. Ce que j'ai dit à mon éditrice, c'est, là, je ne sais plus trop si c'est moi l'auteur du texte, mais honnêtement, c'est pas mal moi qui a eu l'idée, qui a fait l'entrevue, qui lui a donné où s'en aller avec ça. Donc, ça a été quand même moi le guide de rédaction. C'est quand même mon idée de départ. C'est quand même mon contenu. C'est juste que j'ai eu un assistant d'écriture avec moi. Récemment, je lui ai demandé aussi des idées de titres pour un nouveau projet balado dont je vous parle aussi lors d'un prochain épisode. Et on a aussi utilisé, parce que le nouveau projet va être avec mon conjoint, on a aussi utilisé ChatGPT pour lui demander des idées de questions à poser en entrevue. On lui a exposé notre projet et on a dit quel serait le type de questions d'entrevue que tu poserais à des invités pour un projet de ce type-là. Et là, on lui en a demandé un paquet, puis on a sélectionné à travers le tout, modifié la langue, mais on a maintenant une banque de questions d'entrevue qu'on peut utiliser. Je vois donc des possibilités énormes. Je ne l'utilise pas comme engin de recherche pour trouver des réponses à mes questions. Souvent, premièrement, il faut savoir que sa base de données, pour le moment, arrête en 2021. J'ai testé le chat dans Bing qui, lui, est connecté à Internet, mais la réponse qu'on me donne, à moins d'aller toutes lire les sources, ce serait que de me fier à ce qui est écrit là, qui serait un peu comme lire la première réponse dans une recherche Google et m'arrêter là et me dire que j'ai réponse à ma question. Donc, je ne l'utilise pas dans cette fonctionnalité-là. C'est plus un assistant d'écriture, un assistant qui m'aide à formuler, à construire le texte autour de mes idées. Il m'aide énormément avec le syndrome de la page blanche. Je commence par quoi? J'écris quoi? Là, j'aime mieux pouvoir mettre mes points, le laisser faire une première version, le retravailler par la suite. On dirait qu'il me donne le point de départ pour pouvoir continuer. Je le comparerais un peu à utiliser Canva plutôt que utiliser une page blanche pour créer une infographie. Moi, j'aime bien partir d'un modèle et le déconstruire, dire j'aime celui-là, mais je l'aimerais mieux bleu plutôt que vert. J'aimerais mieux que le personnage se trouve en haut à droite plutôt qu'en bas à gauche. Je vais changer le texte pour telle chose. Donc, c'est un peu dans ce même sens-là que moi, je l'utilise. Lors du prochain épisode, je vous parle de d'autres outils d'intelligence artificielle que j'utilise, des outils de correction, des outils pour m'aider avec la traduction et des outils aussi de création, autant des modules pédagogiques que vidéo que d'images. Donc, je vous parle de mes expérimentations, mais comme je vous dis, des expérimentations qui maintenant font partie de mon quotidien. On se reparle bientôt.